L'Iran produit les missiles balistiques capables de détruire des cibles marines en mouvement, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri. Un raid aérien mené par Israël contre l'aéroport international d'Alep a provoqué la mise hors service de celui-ci. Et 20 documents de coopération ont été signés entre l'Iran et l'Afrique de l'Ouest. C'était les principaux titres. En voici le journal. La République islamique d'Iran a atteint la capacité de production de missiles balistiques assez puissants pour détruire des cibles marines en mouvement, a déclaré lundi 6 mars le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri. S'adressant aux journalistes, le général de division Mohammad Bareri a déclaré que le missile avait été testé avec succès et que sa production de masse avait été lancée. Après la production de son missile, l'Iran fera partie des trois pays possédant le savoir-faire technique pour fabriquer de tels missiles, a indiqué le général Bareri. Il a ajouté que le nouveau missile balistique d'une portée de 1500 km pouvait atteindre sa cible avec une vitesse de Mach 8, précisant qu'il est capable d'opérer des frappes de précision. À partir de maintenant, les porte-avions envahisseurs et la flotte étrangère ne seront pas en sécurité à une distance de 1500 km de nos côtes, avertit le général Bareri, soulignant qu'il s'agit là des acquis des jeunes Iraniens. Un raid aérien mené par Israël contre l'aéroport international d'Alep a provoqué la mise hors service de celui-ci, a rapporté mardi matin 7 mars l'agence de presse officielle syrienne Sana. Selon l'agence syrienne d'information citant une source militaire, la frappe aérienne israélienne a été menée tôt mardi depuis la direction de la mer Méditerranée à l'ouest de la ville côtière de Latakia. La source militaire a ajouté que l'attaque n'a causé que des dégâts matériels à l'aérodrome de l'aéroport international d'Alep, mettant l'aéroport hors service. Les médias syriens avaient précédemment déclaré que les défenses aériennes du pays avaient intercepté des missiles israéliens venant de la direction de la Méditerranée, abattant un certain nombre d'entre eux. La nouvelle frappe israélienne intervient alors que l'aéroport international d'Alep est l'une des principales portes d'entrée pour les avions étrangers transportant de l'aide humanitaire aux victimes du récent tremblement de terre dévastateur dans le pays. L'acte d'agression israélien a suivi une autre frappe plus tôt, en février, lorsque l'avion du régime a frappé la capitale syrienne et ses environs, en particulier un certain nombre de bâtiments résidentiels dans le quartier de Kafr Sousa, au centre de Damas. Tal al-Masih, près de la ville de Shahba, au nord de Souida, dans le sud-ouest de la Syrie, était une autre cible de cette attaque. Le ministère syrien de la Santé a déclaré que 5 personnes avaient été tuées lors de l'attaque, dont un soldat, tandis que 15 autres avaient été blessées, dont certaines grièvement. S'adressant à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Syrie, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saidi Ravani, s'est dit préoccupé par l'exploitation et la politisation de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. L'approche politique du dossier syrien a été une stratégie ratée, mettant en péril le processus visant à résoudre les problèmes en suspens, a-t-il déclaré. Le diplomate iranien a déclaré que la République islamique d'Iran, en tant que principale victime des armes chimiques, condamne fermement l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, en tout lieu et en toutes circonstances. L'utilisation d'armes chimiques est un crime contre l'humanité et une violation flagrante du droit international, a-t-il déclaré. C'est pourquoi le peuple iranien n'oubliera jamais comment les pays occidentaux ont soutenu le régime de Saddam Hussein dans son utilisation systématique d'armes chimiques contre eux. Il a réitéré le soutien de l'Iran à un dialogue constructif entre la Syrie et l'OIAC au plus haut niveau sur la base d'un calendrier précis afin de résoudre les problèmes en suspens. Il a souligné que toute enquête sur le dossier des armes chimiques de la Syrie doit être impartiale, professionnelle et objective conformément à l'OIAC. Damas a affirmé à plusieurs reprises qu'aucune attaque chimique ne s'était produite sur la ville à l'époque et que l'incident avait été organisé par des agences de renseignement étrangères pour faire pression sur le gouvernement syrien à un moment où il faisait des progrès significatifs contre les terroristes, soutenus par l'étranger à travers le pays. Au premier jour du meeting sur la coopération scientifique et économique entre l'Iran et les pays d'Afrique de l'Ouest, IRANWAC, selon l'acronyme anglais, 20 protocoles d'entente et accords de coopération bilatérale et plurilatérale ont été signés. Le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, est passé lundi à la tribune de la réunion Iran-VAC à Téhéran pour insister sur la place privilégiée des relations amicales avec l'Afrique de l'Ouest dans la politique étrangère de l'actuel et 13e gouvernement de la République islamique d'Iran, lequel se déclare prêt à contribuer à étendre et à approfondir ses liens. Devant les participants à la réunion Iran-VAC, Mokhber a exprimé la sérieuse volonté de la République islamique de rehausser ses liens avec les pays ouest-africains dans tous les domaines, notamment en matière de coopération économique et commerciale. L'Afrique de l'Ouest dispose à elle seule d'une part de 40% dans les transactions commerciales entre l'Iran et tout le continent africain, a-t-il précisé. Les investissements conjoints dans le domaine de la technologie avec la mise à profit du grand potentiel offert par l'Iran concernant les sociétés du savoir offrent un terrain propice à approfondir les relations avec les pays africains, selon le premier vice-président de la République islamique d'Iran. Par la suite, Mohammad Mokhber a partagé avec les participants une liste assez longue des secteurs et activités qui, selon lui, offrent un énorme potentiel pour les coopérations futures, y compris les investissements et le transfert du savoir-faire technique pour les exploitations minières, les projets de construction, surtout les logements sociaux, le développement des infrastructures de transport, des centrales et des raffineries, l'exportation des services techniques et d'ingénierie, l'industrie automobile, l'exportation de médicaments et des équipements médicaux, l'industrie agroalimentaire et l'agriculture extraterritoriale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mokhber a indiqué que la conception des projets et des centres de recherche conjoints, ainsi que les programmes de l'échange d'étudiants aussi, pourraient accélérer les activités envisagées dans le cadre de la coopération entre l'Iran et les pays ouest-africains. Le secteur privé iranien pourrait à son tour s'activer à cette fin, a dit le premier vice-président iranien qui a également plaidé pour l'établissement des lignes aériennes de part et d'autre et l'arrangement des questions financières et bancaires entre l'Iran et l'Afrique occidentale pour mener à bien tous les projets sous-mentionnés. Le meeting sur la coopération scientifique et économique entre l'Iran et les pays d'Afrique de l'Ouest a lieu du 6 au 8 mars en cours, avec la participation de ministres, ambassadeurs, hommes d'affaires et professionnels des secteurs technologiques et énergétiques d'Iran et des pays ouest-africains à Téhéran. L'Occident ne cesse de recruter des hackers mercenaires pour exacerber des cyberattaques contre la Russie, déclare une haute diplomate russe. Les installations d'information de la Russie continuent de faire face à des cyberattaques massives qui ont décuplé depuis le lancement de l'opération spéciale, a déclaré Irina Tiajleva, la représentante du ministère russe des Affaires étrangères lors d'une réunion du groupe de travail à composition non limitée des Nations Unies sur la cybersécurité. Nous pensons que l'objectif des tentatives des États-Unis et de leurs alliés de faire l'obus sur la question des pirates informatiques russes et de la cybermenace russe n'est plus un secret pour personne. Le seul objectif est de dissimuler leur propre activité destructrice dans le cyberespace, a souligné la diplomate. En fait, les pays de l'OTAN cherchent ouvertement à militariser le cyberespace en augmentant activement leurs capacités offensives et en améliorant les moyens de mener des cyberattaques contre la Russie, a poursuivi Tiajleva. Avec le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, les pays occidentaux ont lancé une campagne à part entière contre la Russie, cherchant à tester la force de notre économie, de nos secteurs financiers et énergétiques et de nos industries cruciales, a-t-elle encore fait noter. Le bloc occidental recrute activement des hackers mercenaires et utilise le potentiel d'information et de communication de ses alliés et des entreprises privées qu'il contrôle, impliquant délibérément des utilisateurs du monde entier dans ses activités criminelles, a-t-elle précisé. Ce scénario inclut l'Ukraine comme terrain d'essai. L'Occident alloue des fonds considérables, forme du personnel et fournit une assistance technique pour accroître le cyberpotentiel offensif du régime de Kiev, a dit Tejleva avant de conclure que pas étonnant qu'ils aient impliqué Kiev dans les activités du centre de cyberdéfense de l'OTAN basé à Tallinn. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Nasrallah constate les signes précurseurs de la fin d'Israël. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a prononcé un discours le lundi 6 mars à l'occasion du mois lunaire Shaban, qui marque d'ailleurs les jours anniversaires de l'heureuse naissance d'Aboul Fazl al-Abbas, le vénéré frère de l'imam Hossein béni soit-il, et de l'imam Zain al-Abidin, quatrième imam des chiites béni soit-il, célèbre respectivement comme la journée des mutiles de guerre et la journée des otages de guerre. « Nous n'abandonnerons jamais nos prisonniers à leur sort », a affirmé à cette occasion Hassan Nasrallah avant d'évoquer la nécessité pour la jeune génération de la résistance de connaître les prisonniers, surtout les prisonniers palestiniens détenus par le régime sioniste. Le secrétaire général du Hezbollah a par la suite ajouté « L'Oumma islamique tout entière doit exprimer son appui au peuple palestinien. Tous les événements qui sont récemment survenus sont le signe que la fin du régime sioniste est proche. Toutes les mesures prises par ce régime ne feront que renforcer la détermination, la foi et l'endurance du peuple palestinien pour mener des opérations martyrs contre Israël. » Nasrallah a affirmé que la décision absurde du régime sioniste de prévoir la peine capitale pour les auteurs des opérations martyrs ne ferait que consolider les forces de la résistance. Compatissant aux douleurs des habitants de la Cisjordanie occupée, de Rotz et Rotzest, de Naplouse et de Havara, Nasrallah a affirmé que les événements de Havara ont mis au grand jour la vraie nature des colons israéliens. En allusion aux tentatives des militaires israéliens d'avancer sur les frontières terrestres, Nasrallah s'est voulu rassurant sur le fait que l'équation de la résistance protège aujourd'hui nos frontières, notre terre et notre mer. Or, seuls l'Iran et la Syrie ont soutenu l'équation de dissuasion face à Israël. C'est l'ennemi israélien qui devra subir les conséquences de tout atermoiement dans l'exploitation des ressources gazopétrolières. Le Hezbollah l'a déjà souligné. Au cas où le Liban serait interdit d'extraction de pétrole, le régime sioniste ne pourra pas en extraire non plus. A affirmé Nasrallah ajoutant « Nous ne céderons pas un pouce de terrain, nous ne passerons pas non plus à côté d'une seule goutte d'eau du Liban. C'est l'ennemi israélien qui va devoir subir les conséquences de tout atermoiement dans l'exploitation des ressources gazières et pétrolières. » Nasrallah a tenu à dire que l'accord trouvé sur la démarcation des frontières maritimes ne signifie nullement une normalisation avec Israël. Nous n'avons jamais cherché à satisfaire les États-Unis par quoi que ce soit. Par conséquent, il suffit que nous ayons l'impression que les États-Unis sont contents de notre moindre action ou prise de position. Et nous douterons de la justesse de notre propre décision. Quoi qu'il en soit, la démarcation des frontières maritimes constitue un important acquis historique. Nasrallah a affirmé que le Hezbollah libanais ne capitulera jamais et que le peuple libanais non plus n'abandonnera pas la résistance malgré ses conditions de vie difficiles. Pour finir, Nasrallah a affirmé que le Hezbollah soutiendrait la candidature de Sliman Frangieh. Le pays a besoin de paix, de dialogue et de communication. Sinon, nous devons subir le vide présidentiel. Nos amis en Iran et en Syrie ne sont aucunement impliqués dans cette affaire. Nous travaillons nuit et jour afin que le président du pays puisse être désigné du jour au lendemain.